Quatrième partie. Sur la piste de Travis. Chapitre 1. Sans phare, les instruments de bord luisant dans l'obscurité, Radley Dubose fonce dans la nuit teintée de vert de toute la puissance des 800 chevaux du Vélociraptor. Carter Yergun, également muni de jumelles de vision nocturne, feint d'être satisfait de jouer les passagers. Manifester sa frustration ne lui serait d'aucune utilité. Ses récriminations viendraient alimenter la satisfaction de son rusto de collègue. La poursuite serait plus facile en plein jour. Mais ils n'ont guère de mal à détecter les signes du passage du Land Rover qui a labouré le terrain meuble, écrasé les herbes sauvages en laissant deux sillons derrière lui, arraché des mottes de terre lorsque ses roues motrices se sont accrochées au terrain. Le 4x4 n'a toutefois laissé qu'un sillage en pointillé, entre deux secteurs arides et durs, dont seul un éclaireur indien du temps jadis serait capable de déchiffrer les secrets. Il est aisé de s'engager dans la mauvaise direction et de se mettre en quête de traces inexistantes. C'est là qu'intervient l'hélicoptère appelé en renfort. Grâce aux caméras installées dans le cockpit de l'appareil, le copilote a moins de difficultés à retrouver la piste du Land Rover. Outre les caméras, l'hélico est capable de balayer le désert à l'aide de rayons infrarouges. La journée précédente n'a pas été extrêmement chaude. Les nuages et la nuit ont fait retomber la température et il n'est pas difficile de distinguer, par leur chaleur naturelle, les coyotes des cerfs ou des êtres humains. La signature du Land Rover sera plus reconnaissable encore. L'hélicoptère et le 6-6 sont équipés d'émetteurs FM. En plus de ses jumelles, Yergun porte une oreillette qui lui permet de recevoir les instructions de l'équipage de l'hélicoptère, qu'il s'empresse de transmettre à Dubose. Il est loin d'être inutile, mais il en veut à son collègue de s'être approprié le volant du Vélociraptor. Il se console en se disant qu'à condition d'accomplir leur mission, ils seront à jamais les héros de la révolution arcadienne. Ils monteront en grade, même s'il est le seul à mériter une telle promotion. Il leur faut à tout prix capturer les Washington vivants, de façon que le couple puisse être modifié, avant d'être longuement interrogé au sujet de cette salope de Hawk et de ses complices éventuels. Travis leur servira de monnaie d'échange, et Maman Ours serait bien inspirée de se rendre au plus vite, si elle ne veut pas que son ourson en paie les conséquences. L'hélico précède le 6-6 d'une centaine de mètres, éclairé par ses trois feux verts réglementaires, ainsi que par la lueur des écrans à l'intérieur du cockpit. En dehors de ces quelques indices lumineux, l'appareil est invisible dans la nuit, et l'on pourrait croire qu'il s'agit d'une sphère en lévitation, ou bien d'une soucoupe volante. Le copilote interrompt le cours des pensées de Yergun.
« J'aperçois des traces anormales au niveau d'un éboulis, peut-être celles d'un véhicule. Nous allons vérifier, » réplique Yergun.
Il transmet l'information à Dubose, dont le visage verdâtre n'est pas sans évoquer celui d'un homme de Néandertal ou même de Hulk.
« Cette fichue lumière verte me prend la tête !» gronde Dubose. « J'ai l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo d'autrefois avant l'époque de la réalité augmentée. Tu ne trouves pas que c'est angoissant ?»« Une sombre route déserte hantée d'anges maléfiques » récite-t-il.
Yergun reconnaît le poème « Terre de songes » d'Edgar Allan Poe. Le fait que le rejeton d'une lignée aussi rustique puisse avoir ce genre de référence littéraire le dérange, même s'il a conscience que Dubose a fait ses études à Princeton, si l'on peut parler d'études dans une institution pareille. Le 6-6 fonce à travers les maigres broussailles de ce coin désertique et contourne une sablière au-delà de laquelle se dessine une longue pente. Dubose stoppe au pied de la colline, sous la surveillance de l'hélicoptère, qui se trouve en position stationnaire au-dessus du Vélociraptor. C'est tout juste si Yergun distingue, à travers le pare-brise, l'endroit où l'éboulis a été dérangé, sans qu'apparaisse la moindre trace de pneu. Il est heureux d'avoir un prétexte pour retirer ses jumelles et descendre du véhicule avant que Dubose ne récite un autre poème. L'air brassé par l'hélicoptère décoiffe Yergun et rabat les pointes du col de son blouson contre son cou, comme si les scorpions brodés avaient jailli des écussons et s'étaient glissés contre sa poitrine. Il allume sa torche afin d'éclairer la pente et découvre un éboulis que le temps et les éléments ont lentement aplani, à l'exception d'un secteur dérangé par un phénomène quelconque. Un séisme modéré aurait bouleversé l'amas de pierres tout entier. Il n'est pas impossible que le Land Rover soit passé par là. Jürgen étudie le terrain, plié en deux, en escaladant la pente qui glisse dangereusement sous ses semelles, le battement sourd des pales de l'hélicoptère faisant écho au rythme de son cœur. À mi-hauteur, un point sombre brille dans le faisceau de sa lampe. Il y plonge son index et l'approche de son nez. Une odeur caractéristique de graisse à essieu.